Dis à quelqu'un, vive la gloire des intimes de Dieu. Alors vous voyez, le parcours que je prends, peut-être que vous allez dire, mais pasteur, pourquoi on ne commence pas par l'intimité d'abord avant d'aller voir la puissance? Mais vous voyez, je suis la Bible. Oui, j'aime pas suivre les trucs, les choses, pas du monde forcément, mais les tendances ou les sentiers déjà, non, pas forcément. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus arrive, vous voyez les disciples, Jésus n'a pas attendu qu'ils soient intimes avant de leur donner l'Esprit. Voyez, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et ensuite, ils ont commencé tout de suite à avoir les dons spirituels. Et par la suite, ils ont commencé à être affermis. Regardez, quand Corneille et ses amis et sa famille entendent la parole, ils étaient païens. L'Esprit descend sur eux d'abord. Ensuite, Pierre parle et il passe par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Quand Paul parle, prêche, l'Esprit de Dieu est répandu. Il impose la main. L'onction descend sur les gens. Il commence à prophétiser. Donc, l'onction descend. Il prophétise, c'est-à-dire les dons spirituels sont là. Et par la suite, il va dire à Timothée d'aller fortifier. Il va dire à Jude d'aller fortifier. Il va enseigner comment marcher. Vous comprenez? Donc, le process que je suis en train de prendre, c'est ce que la Bible fait. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait. C'est pourquoi je procède de cette façon. Nous avons vu les différentes façons de descendre du Saint-Esprit. Le Seigneur Saint-Esprit est venu sur notre Seigneur Jésus sous forme de colombe. Alléluia. Qui représente la simplicité, le cœur simple des fils de Dieu. Ce cœur-là qui a le désir et la nécessité de plaire à Dieu, d'avoir l'image de Christ, d'avoir la ressemblance de Christ. Pas une personne mélangée, mais une personne qui désire la pureté du Seigneur. Une personne qui cherche constamment à plaire celui qui a payé le prix pour lui. Une personne qui cherche constamment à être un chrétien d'abord avant d'être, oui, élevé à un quelconque rang ou niveau. Cette personne-là qui désire constamment être un enfant devant Dieu. Celui-là qui constamment désire se mettre et fléchit les genoux devant ce maître, le Seigneur, qui l'a racheté de sa vaine manière de vivre et qui l'a établi comme héritier, fils du roi très saint. Et lorsque le Seigneur a reçu la colombe, par la suite, il a commencé à enseigner. Et après, nous avons vu la descente du Saint-Esprit sous forme de feu dans le livre de Actes des Apôtres. Au chapitre 2, nous avons vu qu'il y a eu un grand vent et le feu est descendu. Et quand le feu est venu, nous avons vu que le feu envoie la pureté, mais aussi le feu déploie l'énergie et la force de Dieu. Vous voyez, quand un moteur, lorsqu'on met le contact, le contact va allumer quelque chose dans un moteur et il aura un feu qui va pogner dans le moteur. Et c'est l'action de ce feu qui va propulser, qui va créer une forme d'explosion dans le moteur et qui va faire bouger la voiture. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit vient sous forme de feu dans notre vie, le Saint-Esprit nous met en mouvement. Tu ne peux pas dire que tu as le feu de Dieu, que tu as l'Esprit de Dieu et tu dors. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et les choses du Seigneur ne te touchent pas. Nous avons vu ici que celui qui aime Dieu bouge pour Dieu. Nous avons vu ici que celui qui aime Dieu est jaloux pour Dieu. Il dit, parce qu'il a été jaloux pour moi, autrement dit, parce qu'il a été, il a eu du zèle pour moi, je ferai une alliance de paix éternelle avec lui. Donc le feu nous fait bouger, mais le feu nous fait rentrer aussi dans une grâce merveilleuse du Seigneur. Ensuite, nous avons vu la descente sous forme d'huile, l'onction chimène, qui était la plus vieille des descentes. C'était l'huile qu'on mettait sur la tête des rois, la tête des prophètes, la tête des sacrificateurs. Quand on voulait dédicacer un temple pour que Dieu y demeure, on mettait de l'huile et on appelait la grâce du Seigneur. Amen. Cette huile coule encore aujourd'hui dans nos vies. Ensuite, nous avons vu la descente du Seigneur sous forme de souffle. Avec ce mot, qui connaît le mot? Noé, mais c'est pas ça d'abord? Merci, tu es béni. Le mot ruach, qui en hébreu traduit le vent, traduit le souffle, traduit l'âme, traduit l'esprit. Le mot ruach est utilisé pour parler de souffle. La Bible dit en Jean, le chapitre 20, Jésus, lorsqu'il est rentré, a soufflé sur les disciples, a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous avons vu la descente sous forme de vent. Nous avons vu combien de fois la Bible dit en Ézéchiel, le chapitre 37, lorsque il était dans cette vallée désolée où il y avait des ossements. Quand on parle d'ossement, on parle de la fin d'un rêve. On parle de la fin d'une volonté. On parle de la fin de toute chose. Tous tes désirs que tu avais eus dans la vie, tout était à terre. Tout était mort. La chair était totalement finie sur les ossements. Et pendant que le Seigneur regardait, il posa la question aux prophètes, « Penses-tu qu'ils vont revivre ?» Dieu avait besoin d'allumer dans le cœur du prophète un feu de foi. Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, fils de l'homme, prophétise et dis, esprit des quatre vents. Pourquoi Dieu qui parle à Ézéchiel ne parle pas directement aux eaux? Et dit à Ézéchiel, le prophète, il ne dit pas, levez-vous. Il dit, esprit des quatre vents. Et lorsque vous allez dans le livre de Zacharie, le chapitre 6, la Bible nous dit qu'il y avait quatre chars qui sortaient d'entre deux montagnes des reins. Et ces quatre chars étaient les quatre esprits, étaient les quatre vents des cieux qui partaient, parcourir la terre. Et la Bible nous dit que Dieu utilise les vents comme des messagers. Et le Seigneur Saint-Esprit utilise les vents comme quoi aussi un transporteur. Il dit, il descend sur les ailes du vent. Mes amis, nous avons vu cette descente et nous avons vu combien de fois Dieu a fait beaucoup de miracles dans cette assemblée. Amen. Beaucoup de miracles. Amen. Oui, on a vu beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Amen. Gloire à Dieu. Et depuis quelques temps, nous sommes en train d'étudier maintenant, lorsque l'Esprit arrive sur nous, il y a le fait d'imposer aussi les mains pour transmettre le Saint-Esprit. Mais cette portion, je mets cette portion aussi dans l'huile, c'est-à-dire l'ombre de la puissance qui descend sous forme d'huile. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Et nous sommes en train d'étudier la manifestation des dons de l'Esprit, des dons, les pneumas, alléluia, qui sont donnés par le Seigneur Saint-Esprit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, Romains, le chapitre 12, Éphésiens, le chapitre 4, on voit ces différents dons. Et nous avons commencé à étudier les 9 dons catégorisés en 3 par les, qu'on appelle les théologiens. Sinon, nous avons vu plus que 9 dons, alléluia. Et le Saint-Esprit étant infini ou bien éternel, on ne peut pas le quantifier. Gloire à Dieu. Il peut opérer de diverses façons. Mais pour l'ordre, nous avons commencé à étudier ces 9 dons. On a commencé par le don de parole de sagesse, qui n'est pas le don de sagesse. Le don de parole de connaissance, qui n'est pas le don de connaissance. Le don de discernement des esprits. Et le dimanche passé, nous avons entamé, nous sommes rentrés dans les dons d'inspiration où on a parlé du don de prophétie. Qui se rappelle? Ça t'a mélangé, hein? T'as mélangé même. Non, je sens que ça t'a mélangé. Pourquoi? Parce que quand je suis allé faire la réunion des responsables en haut, et tout s'était mélangé. Mais on bénit Dieu. Alléluia, réécoutez le message 2 fois, 3 fois. votre esprit sera totalement ouvert là-dessus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je ne vais pas terminer les deux autres dons, parce que les deux autres dons, je vais terminer à la fin. Pour quelle raison? Ce sont les deux seuls dons qui nous sont donnés dans la nouvelle alliance. Tous les autres dons viennent de l'ancienne alliance aussi. Mais le don de parler en langue et d'interprétation des langues, c'est uniquement dans la nouvelle alliance. Donc je vais terminer avec ces deux-là. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est trop important même. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va commencer les dons de puissance. Dis avec moi les dons de puissance. Et quelqu'un va être béni ce matin. Quelqu'un va être béni ce matin. Dieu va étirer une personne. Et Dieu va te visiter. J'ai la foi que Dieu te visite ce matin. Et j'ai la foi que cette semaine, tu verras la main toute puissante et toute suffisante de Dieu. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Christ, créateur du ciel et de la terre, te visitera par une parole, par une conviction. Et cette semaine, tu auras dans ton cœur un élan de foi, de puissance qui va faire naître un miracle, quelque chose qui ne vient pas de toi, mais quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient de Dieu. Et cela va te confondre et tu sauras qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Aujourd'hui, nous verrons le don de foi. Le don de foi. Masata la brasse que te brosi mayala. Il reste une minute. Mais avant de parler du don de foi, j'ai envie de te donner des témoignages. Hein. Ouais. Je vais te donner des témoignages. Gloire à Jésus. Amen, amen. Témoignage de guérison. Merci Seigneur de m'avoir guéri encore et encore. Pendant la prière de 5 heures du matin, en ce moment de 40 jours, une fois de plus, tu m'as encore guéri. Un jour, le pasteur a déclaré, pendant qu'on priait le matin, une femme avait une douleur. C'est au sein gauche ou bien sein? Elle a écrit sein. Mais je pense que ce jour-là, l'esprit avait poussé, j'avais dit sein droit ou gauche. Je sais plus. Puis la personne a crié, c'est moi. Bon, c'est maintenant qu'elle envoie son témoignage. Parce que je ne pouvais pas en parler, parce qu'il fallait que la guérison soit attestée. Elle m'a écrit pour dire qu'elle est totalement guérie. Elle ne sent plus de douleur. On rend toute la gloire à Jésus, notre Seigneur. Témoignage du travail. En juin 2025, j'ai été licencié de mon poste de dessinateur concepteur en ingénierie au bien que mes supérieurs n'aient rien à me reprocher, le manque d'ouvrage a conduit la compagnie à garder les employés les plus anciens. Ce départ fut difficile, mais il a réveillé en moi un désir ancien, retourner à l'enseignement, domaine dans lequel j'avais œuvré dans mon pays d'origine. J'ai donc entrepris des démarches pour m'inscrire à l'Université Laval, en enseignement des mathématiques au secondaire. Dans l'attente, j'ai découvert une annonce pour un poste de professeur en technique de génie mécanique au cégep. Je ne donne pas le cégep, je ne veux pas qu'on sache c'est qui. Amen. J'ai immédiatement envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Au début août, j'ai été convoqué pour une entrevue avec un sujet à préparer et à enseigner devant le recruteur. Je me suis remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, faisant de cette opportunité mon principal sujet de prière. Le jour de l'entrevue, Dieu a manifesté sa fidélité. J'ai été directement embauché avec, écoutez-moi, avec un salaire annuel supérieur à ce qu'il avait avant, ce qu'il voulait garder là. Un salaire annuel supérieur de 33 000 dollars. De plus. Alléluia. Je veux rendre gloire à Jésus pour ce qu'il fait. Elle dit, elle veut la même chose. Mais tu veux la même chose, mais lui, il a souffert quand il a perdu son emploi. Alléluia. Témoignage de guérison et on va commencer. Bon, il y a un autre témoignage de déblocage aussi, là. C'est quoi ça? Oui, non, non. Bon, Joël dit les deux. Témoignage de guérison. Waouh, Dieu fait des miracles. Elle dit, cela fait une semaine. Elle a eu, pendant une semaine, avec de l'angine. Donc, elle avait mal à déglutir. Bon, à la déglutition. Français. Des mots, hein. Quand elle a vu ça, elle dit, hé. Hey. Donc, à la rupture de notre Sainte-Seine, lorsque j'ai commencé à proclamer, vous ne devez plus rien à la maladie et tout ça. Amen. Elle a cru et elle a déclaré que la maladie s'en va. J'ai dit à Dieu que les malades guérissaient après l'avoir pris du coup qu'il guérisse mon mal. Et le matin, je me réveille, le mal a complètement, totalement disparu. Oui, il y a des mots, en principe, quand ça doit partir, tu sens que ça s'en va. Mais elle a déclaré le soir, matin se lève, plus rien. Amen. Elle rend gloire à Jésus, on rend gloire à Jésus aussi. Témoignage de déblocage. Ma famille rend gloire à Dieu pour le miracle opéré dans le dossier d'immigration de mon fils. Pendant que nous suivons en ligne Effusion 2025 avec Vase en or, le pasteur Mathieu Achimolo invita à semer une offrande de 100 euros. Ma femme et moi avons décidé de participer. Donc lui, il voulait faire 100 euros, il s'est trompé, il a fait 1000 euros, 1000 dollars. Mais, 1000 dollars canadiens. Donc nous avons compris que c'était la semence que Dieu attendait de nous. Car ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Trois jours plus tard, avant même la fin du quatrième cycle de 24 heures annoncé, nous avons reçu un courrier de l'ambassade du Canada au Mexique. En seulement 16 heures, une décision favorable avait été prise pour notre fils. Il devait soumettre son passeport afin d'obtenir son permis. Une semaine après, il était déjà au Québec. Alléluia! Amen, amen, amen. Je veux bénir le Seigneur et je rends gloire à Jésus pour tous ces témoignages. Il agissait hier, il agit aujourd'hui et il va encore agir demain. Alors, si tu es dans un de ces cas de sujet, sache que Dieu agit encore et qu'il est capable de changer ta situation aujourd'hui même. Je ne dis pas demain, aujourd'hui même. Alors, pendant que je te parle, écoute bien la parole, que ton cœur saisisse la foi et que ces choses se arrivent aussi dans ta vie. En 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 11, verset 9 d'abord, il dit à un autre, la foi par le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Et il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc aujourd'hui, nous allons voir le don spirituel qui s'appelle le don de foi. Alléluia. Mais comme d'habitude, il est très important de voir ce que le don n'est pas pour mieux comprendre ce que le don est. Je parle du don surnaturel de foi. Le don surnaturel de foi. Alors, ici, je vais t'exposer 5 types de foi, gloire à Dieu, où 4 ne sont pas le don surnaturel de foi. Amen. Les théologiens, d'autres donnent 8, d'autres donnent 9. Par exemple, ils disent qu'il y a le type de foi appelé la foi glorifiée pour les croyants qui vont se trouver au ciel. Il y a aussi ce qu'ils appellent la foi corpus pour la corporation. Amen, amen, amen. Il y a plusieurs, mais j'ai retenu 5 pour toi. Gloire à Dieu. Alors la première des choses, ou bien la foi que nous allons, qui n'est pas, le premier niveau de foi qui n'est pas le foi surnaturel, c'est la foi naturelle. Amen. Dis avec moi la foi naturelle. Et je vais te donner deux versets, Luc le chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir, Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Verset 7. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et il dit ceci, il va expliquer ce pourquoi il dit à Jésus de dire un seul mot. Pour lui, lorsque Jésus déclare une chose, Jésus n'a pas besoin d'être dans l'environnement. Voyez, ah, Tarasekete Bros. Voyez, oh, j'aime Jésus. Dis à quelqu'un, le pasteur aime Jésus. Imaginez-vous, vous avez une maquette de maison. Vous avez des Legos et vous faites la maquette du château Frontenac. Vous voyez, c'est vous qui faites la maquette. Quand il s'agit de changer des fenêtres, vous ne prenez pas de peine, vous ne gémissez pas pour changer la fenêtre. Parce que vous en êtes les propriétaires de la maquette. Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour aller dans la maison de ce centenier. L'esprit en lui est l'esprit de la création. L'esprit par lequel les cieux ont été déployés et que la terre a été formée. Cet esprit n'avait guère besoin d'être déplacé. Il suffisait que Jésus annonce une parole. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole, elle se suffit pour arriver et pour guérir la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des messagers puissants qui ne volent que par la voix et par l'autorité de Dieu, les anges, les saints anges. Il dit, vous êtes puissants, vous qui opérez à partir de la voix de Dieu. Et donc, il n'avait pas vraiment besoin de partir. Et il va expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et là, c'est la fin qui m'attire. Il dit au gars, il dit à Jésus, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, parce que c'est un militaire, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il est en train de dire simplement que la voix d'une autorité transporte l'autorité jusqu'au lieu où l'autorité veut arriver, sans même que l'autorité ne se déplace. Il dit, il a simplement besoin de dire, Hervé, va, prends telle chose. Hervé s'en va et moi j'obtiens la chose. Il dit, Hervé, viens. Et Hervé se déplace. Vous comprenez qu'il est en train de dire à Jésus-Christ que, étant donné que tu es l'autorité supérieure, tu n'as même pas besoin de bouger un seul instant. Une seule parole de toi suffit pour que mon serviteur couché soit réveillé. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a regardé ce centenier, il l'admira. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez, cette foi-là, elle est grande, mais elle est basée sur quoi? L'expérience qu'il a. Cette foi, elle est grande, mais ce n'est pas la foi de Dieu. Cette foi, elle est grande, mais ce n'est pas la foi qui est basée sur la parole. Cette foi, elle est grande, mais elle est naturelle. La foi naturelle, c'est cette foi qui fonctionne que par la vue, parce que j'ai vu, je crois. Thomas dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Des personnes, des foules suivaient Jésus parce que ces personnes avaient entendu qu'il avait guéri des gens. Mais la foi de Dieu n'a pas besoin de voir pour accomplir la chose. Celui qui a la foi de Dieu n'a pas besoin de voir pour comprendre. La foi naturelle se base sur des faits, se base sur l'expérience, se base sur la vue, se base sur des biens. Tu vois, il y a des gens qui se sentent intouchables, à l'aise, ou qui ont l'assurance simplement parce que ils ont leur maison, ils ont pris l'assurance. Vous voyez, non? Ils ont fait telle chose, leur salaire tombe chaque fin de mois. Donc, vous voyez, il y a une... En fait, quand tu dis, est-ce que tu peux acheter la voiture? Il dit, oui, je peux acheter la voiture. Vous voyez, la personne a la foi qu'elle peut acheter la voiture. C'est une foi, mais basée sur quoi? Le matériel. Gloire à Dieu. Une foi basée sur les biens, sur des personnes, des preuves scientifiques, sur le raisonnement et même sur des idoles. Alléluia. Lorsque vous allez en Matthieu, le chapitre 15, verset 21 au verset 28, la même histoire en Marc 7, mais je préfère Matthieu parce que Jésus a bien parlé de cette foi. Il s'agit ici de cette femme syrophénicienne. Il dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot. Waouh, j'aime bien cette phrase. Il faut dire à quelqu'un, viens mercredi, tu vas bien comprendre ça. Mm-hmm. Tu es là-bas, on est en train de traiter ça là. Amen. Gloire à Dieu. Il arrive des moments où tu dois fermer les oreilles aux sollicitations. Oui. Même quand c'est une bonne chose. Hein. Là, c'était une bonne chose, non? C'était une bonne chose ou pas? Mais la Bible dit, Jésus, il n'est pas méchant. Hein. Mais c'est mercredi, tu comprends ça. Amen. Viens mercredi. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance. Ça veut dire qu'ils étaient en train de casser l'oreille de Jésus. Il faut renvoyer la femme là. Elle nous fatigue. Tu vois pas qu'elle crie là? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il lui répondit, verset 24 maintenant, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui. Donc, à chaque parole de Jésus, elle trouvait quelque chose à faire. Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon. Ou bien, il n'est pas, dans Marc, on dit bon. Mais ici, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Si c'est toi, tu l'as laissé. Si c'était toi, tu allais retourner. Tu as dit, non, c'est qui ça là? Ce pasteur là, c'est un faux type. Il insulte les gens. C'est moi je suis devenu petit chien dans ce Québec. C'est moi, il me traite de petit chien. Il n'a même pas dit petit chien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Viens mercredi pour comprendre. Alléluia. Maintenant, regardez, la femme va répondre au verset 27. Oui, Seigneur. Donc, elle n'a pas dit, je ne veux pas. Pourquoi tu me dis petit chien? Pourquoi est-ce que tu traites mon enfant de petit chien? Vous comprenez? Elle dit, oui, Seigneur. Waouh, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Vous voyez, cette femme-là, on dit que c'était une femme cananéenne, une païenne. Païenne. Mais Jésus a vu sa foi et Jésus a dit que sa foi était grande. Cette foi, ce n'est pas la foi surnaturelle dont nous allons parler. Amen, amen. Deuxième type de foi, la foi qui mène au salut par Christ. La Bible dit en Actes, le chapitre 16, verset 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ici, il s'agit de l'adhésion au message qui donne en fait le salut. On vient t'annoncer, on te parle et on dit, il y a un sauveur qui est mort il y a 2000 ans pour le salut de l'humanité. Et puis on te pose la question, est-ce que tu veux croire ? On te pose la question, si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr que tu vas hériter du royaume des cieux ? Tu dis, comment ça ? Et puis on t'explique. À la fin, tu dis, veux-tu hériter du royaume des cieux ? Tu dis, oui. Ça, c'est la foi dans le Sauveur qui donne le salut. Mais il ne s'agit pas non plus de la foi dont je vais vous parler. Manta brassé. Oui, c'est pas de cette foi que je vais te parler. Troisième type de foi. Dis avec moi, la foi générale qui s'appuie sur la parole. Selon Romains 10, 17, qui dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, vous voyez, le verbe est au présent. Je le répète, je rappelle cela tout le temps. Je rappelle cela tout le temps. Le verbe est au présent. Cela veut dire que chaque fois que tu écoutes la parole, que tu adhères, que ton cœur accepte, la foi naît dans ton cœur. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas parce que j'ai lu une fois la parole. Vous comprenez ? Et que j'ai eu la foi. Non, chaque fois. C'est pourquoi la méditation quotidienne est une bonne chose pour vous. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, chaque fois que votre cœur adhère à cette parole, la Bible nous dit qu'une foi va naître en vous. Cette foi est la foi générale, alléluia, qui est basée, qui est ancrée dans la parole de Dieu. C'est cette foi-là, c'est d'elle qu'on parle en disant, quand on parle de pistis, dont l'incrédulité est apistis, alléluia. Amen, amen. L'année passée, j'ai enseigné longuement là-dessus. Amen. Colossiens, le chapitre 1, verset 22, verset 23, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Cette foi demeure lorsque la parole est prêchée. Gloire à Jésus, lorsque tu écoutes la parole. Quatrième type de foi. Je bénis Dieu parce que tu comprends la parole. Quatrième type de foi, c'est la foi qui est le fruit de l'Esprit de Dieu en Galates 5, hein, verset 22. Galates 5, 22 nous parle de la fidélité. En anglais, faithfulness, ça veut dire la plénitude de cette foi. Amen. Gloire à Jésus. La version second 21 nous parle de foi et non de fidélité. Amen, amen, amen. Donc si vous avez la version second 21, vous pouvez mettre, c'est écrit foi. Alors ici, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un fruit qui vient dans notre vie lorsque nous recevons le Seigneur Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ce fruit va faire ? Ce fruit va... En fait, un fruit fait quoi ? Un fruit, d'abord, lorsque le fruit commence à sortir, le fruit va grandir, maturer, avant d'être consommable, n'est-ce pas ? Alors, le fruit de l'Esprit, qui est la foi, va grandir en vous et vous maintenir dans le caractère de Christ. Et à mesure que vous travaillez sur cette foi, que vous appliquez, que vous lisez la parole, vous allez de plus en plus développer le caractère et la ressemblance de Christ. Christ est un homme de foi, le juste vivra par la foi. Alors en vous, cette foi va faire que vous allez marcher jour après jour par la foi et non la vue. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ? Est-ce que tu comprends ? Amen. C'est ce que Jacques nous dit en Jacques 2, verset 14 au verset 17. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Et il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez, donc le fruit de la foi est vivante, est vivante. En fait, elle agit. Bon, oui, le fruit agit, il agit. Bon, le fruit agit. Eh, mon professeur, gloire à Dieu. J'ai un sourire sur le côté, je sais qu'il est gaffé. Alléluia, mais j'aime ça, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le fruit de la foi est un fruit vivant. Ta foi doit grandir, ta foi doit croître et on doit voir en toi la nature, le caractère, l'image de Christ. Tu dois de plus en plus ressembler à Christ dans le domaine de la foi. Amen, amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Maintenant, on va aller à la foi dont je vais parler. Vous avez bien compris, non? Toutes ces fois-là, ces types de foi. Maintenant, je vais te parler d'une foi. Dis à quelqu'un une foi. Une foi. Alléluia. Il s'agit de la foi surnaturelle. C'est une foi spéciale. Ce n'est pas quelque chose que vous avez développé par votre capacité. Il s'agit d'une foi surnaturelle. C'est vrai que quand on enseignait sur la foi, on disait la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, dans d'autres versions, ayez la foi de Dieu. On disait c'est la foi de Dieu. C'est ici qu'est la foi de Dieu. La foi surnaturelle, c'est Dieu qui te transmet une portion de sa foi à un instant T face à une situation qui est jugée imprenable, impossible aux humains. Cette foi commence à agir quand ta foi générale a des limites. Cette foi est capable d'ouvrir la mer. Cette foi est capable de ressusciter des morts. Cette foi est capable de parler sur l'environnement et l'environnement écoute comme si Dieu lui-même parlait. Cette foi vient du Seigneur Saint-Esprit. Cela ne vient pas de tes années d'expérience. Alléluia. C'est un pneuma. C'est un don de l'Esprit. Et ce don de l'Esprit a la capacité de transporter Dieu dans l'œuvre de la manifestation du ministère. Tu es en train de faire ministère et Dieu lui-même, tu vois quelque chose. Ton cœur fait le signe Zorro. Personne n'a vu, mais toi tu sais que ton cœur a fait le signe Zorro. Vous voyez, il y a des maladies quand tu vois, on dit j'ai telle maladie, ton cœur fait pipi. Tu dis, hé, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est Dieu. Ah, je bénis le Seigneur. Avant que quelqu'un me disait, j'ai cancer, mon cœur faisait ça. Mais maintenant là, je suis un mangeur de cancer. Amen. Oui. Ça ne m'effraie plus. Actuellement, je suis en train de prier pour les autistes. Quand le Seigneur va déployer en moi, je vais commencer à les manger. Oui. Oui. Gloire à Jésus. Alors je reviens sur 1 Corinthiens 12. Il dit à un autre la foi, pas le même esprit. Alors la foi dont nous parlerons aujourd'hui, c'est la foi de Dieu. La foi qui produit des prodiges. C'est cette foi-là qui a fonctionné en Marc le chapitre 11. Amen, amen. Tu vas commencer à rentrer dans un temps surnaturel. Laisse juste ton cœur croire à la parole de Dieu et quelque chose va arriver dans ta vie. Le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit Et ses disciples l'entendent dire. J'aime bien cette portion. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Jésus maudit un figuier qui n'est pas dans sa saison? Vous savez, pour comprendre ça, il faut aller à la création. C'est Jésus qui la Bible dit, il a déclaré qu'il y a des plantes. Il a déclaré qu'il porte des fruits en chaque saison. Alors, celui qui initie et ou qui déclenche les saisons, dans le livre de Daniel, le chapitre 2, il dit, il est le Dieu des temps et des saisons. Celui qui crée une personne, c'est quelle capacité il a mis dans cette personne. Et quand le moment arrive pour dire, j'ai besoin d'une portion de ta capacité pour telle chose, il dit, je te donne des talents pour aller faire telle chose. Tu dis, non, je n'ai pas cette capacité. Or, en te créant, il a mis cette capacité en toi.
Amen.
Donc, Jésus se trouve face à un arbre rebelle. Oui. Face à un arbre qui n'écoute pas la voix de son créateur. Romains dit, toute la création soupire après la révélation. Ça veut dire que eux tous entendent la voix du Créateur. Eux tous attendent les voix et la révélation des fils de Dieu. Et Dieu lui-même est en face et tu n'entends pas sa voix. Tu n'obéis pas à sa voix. Alors, le Seigneur l'a maudit. Mais les disciples qui suivaient le Seigneur n'avaient pas cette foi. Et lorsque Jésus est parti, le lendemain, ils ont vu, quand ils passaient, ils ont vu que le figuier avait séché complètement. Et Pierre, prenant la parole, dit, mais maître, il y a le figuier que tu as maudit a séché complètement jusqu'à la racine. Jésus va leur dire, ayez la foi de Dieu. C'est ce que Jésus va leur dire. Alors, mes amis, il est important pour vous de comprendre qu'il y a une foi surnaturelle qui nous vient de Dieu et qui nous est communiquée face aux situations qui ne sont pas des situations ordinaires. Dans la Bible, certaines personnes ont reçu cette foi. Dans la Bible, certaines personnes ont reçu cette foi-là. Et cette foi a manifesté des prodiges qui sont au-dessus des capacités des êtres humains. Et je vous assure que si vous soupirez après cette foi, après ce don, Dieu va vous donner ce don. La Bible dit que si vous manque la sagesse, il faut demander et Dieu vous donnera. La Bible dit que si les hommes sont méchants, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, le Père ne donnerait pas le Saint-Esprit. Si vous demandez le don de la foi pour moi, voyez, personne n'aime se glorifier, tout le monde aime se glorifier, j'ai le don de parole, de connaissance, j'ai le don de prophétie, j'ai le don de miracle, tout le monde, mais on n'entend pas beaucoup, hein, j'ai le don de foi. Mais pour moi, parmi les dons de puissance, c'est le don le plus grand. Parce que s'il n'y a pas de don de foi, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de don de foi, il n'y a pas de guérison. La guérison et les miracles ne viennent que par le don de foi. En fait, en réalité, les deux dons, le don de miracle et le don de foi, sont similaires. Mais seulement le don de foi est un don passif. Lui, il reçoit les prodiges. Et le don de miracle fait quoi? Est dispensateur des prodiges. Mais en réalité, il est la base. Ce don est la base de toute forme de prodige. Élie se met là et puis dit, je ferme le ciel. Quel homme peut faire ça? Josué, en Josué, le chapitre 10, ils sont en train de combattre les Amoréens. La Bible dit, parce que la nuit était proche, Josué a bloqué le soleil dans son parcours, la lune dans son parcours. La Bible dit, il a parlé à Dieu et il a bloqué. Mes amis, je ne suis pas en train de te raconter une histoire. Il y a eu des moments où, quand le pasteur Mohamed est parti, l'apôtre Mohamed est parti en croisade, les nuages étaient à un niveau. C'était devenu tellement, totalement noir, le temps noir. Ça veut dire que le jour, là, il devait pleuvoir. Il lève le doigt, il commande aux nuages de quitter. et quelques temps après, tu vois le vent pousser les nuages partir. C'est quel homme naturel qui pourrait faire ça? Le don de foi est ce don-là qui parle à la création et la création obéit. C'est pourquoi Josué pouvait parler au soleil. Le don de foi est ce don-là qui, face aux situations de manque cruel, appellera des corbeaux spirituels pour envoyer la provision jour et nuit. Est-ce que tu crois? Le don de foi. Le don de foi. Un jour, j'ai dit à mon épouse, bon, c'est pas le bon exemple. Je ne donne pas ça. C'est un bon exemple, hein. Mais c'est bon. Alléluia. Envoyez-moi Josué. Merci. Josué, le chapitre 10. On va aller au verset 14. C'est le verset 14 là qui m'intéresse. Il dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni après, ni avant, ni après, où, écoute, il dit, l'Éternel avait écouté la voix d'un homme. Donc, vous voyez, la foi de Dieu, ceux qui ont le don de foi de Dieu, croient en Dieu au point où, en fait, Dieu honore leur parole comme s'il honorait lui-même sa parole. C'est-à-dire, tu déclares quelque chose et c'est comme si c'est Dieu qui vient de déclarer la chose. Tu dis une chose et Dieu honore cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je vais te donner une définition. Le don de foi, ou bien le don spirituel de la foi, ou bien je vais utiliser soit le don surnaturel de foi ou le don spirituel de foi, pour que tu ne... Ok? Amen, amen. Gloire à Dieu. Le don spirituel de foi est la capacité surnaturelle que le Seigneur Saint-Esprit te donne, là où la foi générale a des limites. Virgule ou bien point. Ce don te permet de croire en Dieu et d'agir avec assurance et fermeté, comme si c'était Dieu qui agissait et qui parlait en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Ce don n'est pas naturel. Ce n'est pas par la capacité humaine ni un élan d'audace. Ce n'est pas un élan d'audace, mon ami. Amen. Allez-y demander à Usa. Il a été animé de... Alléluia. Gloire à Dieu. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne ce don, que le don de foi te soit accordé, que le don spirituel de foi te soit accordé au nom de Jésus. Même quand les situations seront bouclées totalement sur ta vie, ce don te permettra de sortir de là sans qu'il y ait de séquelles dans ta vie. Et nous le voyons dans le livre de Daniel, le chapitre 6. Dans le livre de Daniel, le chapitre 6, la Bible dit que le roi, les gens avaient blagué le roi et le roi avait écrit un édit. Et Daniel devait se prosterner, ou bien Daniel ne devait plus prier que le roi. Et ils sont allés voir Daniel qui était en train de prier, parce qu'ils savaient que Daniel honorait ses 3 prières par jour. Et que ces personnes, certainement qu'ils ont eu à faire des réunions, et Daniel a dit, non, mon heure de prière est arrivée, je m'en vais. Matin aussi, mon heure de prière est arrivée, je dois prier d'abord. Attendez que je prie d'abord. Bon, exemple, midi, disent, bon, on a une affaire à régler. Ils disent, non, mon heure de prière est arrivée. Donc, ils savaient à quelle heure Daniel priait. Et ces messieurs sont allés chez Daniel pour aller vérifier. Ils l'ont trouvé en train de prier. Ils sont allés voir le roi pour dire, tu sais, ton type là, il est dangereux. Et ils ont commencé à parler. Et le roi qui aimait beaucoup Daniel ne voulait pas agir. Ils ont dit au roi, tu sais, la loi des Mèdes et des Perses, là, quand le roi dit quelque chose, c'est irrévocable. Donc ce Daniel-là doit aller dans la fosse aux lions. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire le roi qui supportait Daniel, lui-même ne pouvait rien pour sauver Daniel. Parce que quand tu lis, la Bible dit qu'il aimait tellement Daniel. À la façon dont il parlait à Daniel, tu sentais son amour. Avant de descendre, il dit, Daniel, que le roi que tu sais avec persévérance puisse te protéger. Et le matin, très tôt, la Bible dit qu'il a scellé le trou avec ceux qui l'ont accompagné. Et le matin, très tôt, on dit, le roi n'a pas mangé ce jour-là et il n'est pas concubine. Parce qu'il donc il savait que concubine, là, ça crée des problèmes. Les gens comme ça, ils savent que concubine, là, c'est pas bien, mais ils sont dedans quand même. Leur conscience leur parle, mais ils sont dedans quand même. Sors dedans, mon frère. Si ta conscience te parle, toi, il faut que tu viennes adorer Dieu, puis ton esprit est tranquille. Amen. La conscience, là, est un saint juge. Dieu nous l'a donné pour discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Quand tu es là, toi-même, tu n'es pas tranquille. Tu es devenu le juge contre toi-même. Mais quand même, tu fais. Alléluia. Alors le matin très tôt, la Bible dit le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine après de... Voilà. Donc allons-y rapidement au verset 16. Bon, oui, c'était ça. Oh, ok, c'était. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. C'est au singulier, hein? Ou bien c'est au pluriel? Ok. Donc il y avait combien de lions? Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on doit jeter quelqu'un au fosse au lion, là, on les affamait expressément. On les affamait. Moi, je dis, vous allez faire jeûne. Donc, tu vas voir ces gars-là, ils ont affamé les lions là, une semaine comme ça. Alléluia. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivre. » Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion et s'approchant de la fosse, il appela d'une voix triste. Vous voyez comment il aimait Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement !» Imagine un peu le roi. Il va faire des retournées de... Alléluia. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Ici, Daniel explique. Peut-être qu'il a vu un ange, peut-être qu'il n'a pas vu d'ange. Mais le fait que les lions ne le touchent point, il savait que quelqu'un avait cloué leur bec. Bon, leur gueule. Gloire à Dieu. Mais c'est la fin du verset qui me plaît. Le verset 23 dit, « Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune... » Les lions même l'ont léché même. C'est-à-dire, son corps brillait. Il a utilisé le ventre d'un lion comme coussin. Il n'a jamais dormi comme ça. Parce que c'était un environnement de foi. Et il dit ceci parce que, vous voyez, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Mon ami, ce type de confiance, ce n'est pas la foi générale, ce n'est pas la foi naturelle. Mes amis, un lion affamé, un peut avoir un tempérament un peu bien. Deuxième. Troisième. Mes amis, même s'il n'est pas affamé, il va tuer et il va sécuriser. Mes amis, alors il savait que les lions étaient des prédateurs, mais il avait une telle foi. La Bible dit qu'il a eu confiance en son Dieu. C'est ce que la Bible elle-même dit. Daniel, lui, il essaie d'expliquer. Mais la Bible dit qu'on ne l'a pas, il n'y a pas eu de gratitude. Pourquoi? Parce qu'il a eu quoi? Confiance en son Dieu. Face à des animaux qui peuvent te broyer, Dieu implémente dans ton cœur une foi capable de fermer leur gueule. Vous voyez, les gens font des coups. Et ces coups-là, c'est-à-dire quand on regarde les coups, quand on regarde leur planification diabolique, tu vois, c'est comme si tu ne peux pas t'en sortir du tout, du tout, du tout. Mais ce qui arrive, c'est que Dieu vient et il met dans ton cœur une pensée et tu as une foi, une assurance, une confiance en lui. Et cette confiance fait que rien ne t'arrive. Mais au contraire, les gens sont confondus à leur niveau. Au point où tu vois la gloire de Dieu dans cette histoire. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce jour-là, que tout système mis en place pour te clouer, te nuire, te détruire, soit inefficace. Mais alors que tu sortes de là, étant renouvelé, ayant des honneurs, et que tous ceux qui ont fait le coup eux-mêmes soient confondus dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Donc il dit, Daniel a eu confiance. Donc vous voyez que les lions n'ont pas bougé à cause de la foi de Daniel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il nous reste 16 minutes. Mais je vais vous donner peut-être sept utilités. Quelle est l'utilité du don de foi dans la vie d'un chrétien? Sept utilités. Numéro 1. En fait, le don de foi active sur nous la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, verset 27, les gens du temple, les collecteurs d'impôts du temple sont venus voir Jésus pour lui dire, mais voir Pierre pour lui dire, mais ton maître là, il ne paye pas les impôts. Jésus lui a posé une question et puis après il lui dit, mais pour ne pas les scandaliser, il dit à Pierre, va au lac, il dit, jette un hameçon et le premier poisson que tu vas avoir, ouvre sa bouche. Et regarde à l'intérieur, se trouve quoi? Une pièce d'argent que tu vas prendre pour payer les taxes ou l'impôt pour toi et pour moi. Écoutez, voyez, c'est surnaturel. Il arrive des moments où, moi, je donne en fait ce témoignage, une sœur ici avait besoin d'une bourse parce que c'était difficile, démunie, les parents ne pouvaient pas payer les études. Et lors d'un culte sur la foi, j'étais en train de prophétiser, de déclarer. Elle s'est levée et puis elle est venue faire une petite semence. Pas beaucoup, mais elle voulait, elle criait à Dieu pour avoir cette semence, pour avoir cette bourse. Elle dit, avant même qu'elle arrive là-bas pour s'asseoir, elle a senti son téléphone vibrer. Et elle voit un courriel qui dit, on vient de t'octroyer une bourse de 15 000 $. En fait, vous voyez, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où la parole passait, elle a une foi, un élan de foi. Qu'est-ce qui, sur 10 000, vous voyez, pourquoi est-ce que cette sœur n'est pas venue faire ça avant? Mais à l'instant T, Dieu a mis en elle, l'a incité à faire quelque chose. Dieu a mis en elle un élan de foi qui a déclenché dans le surnaturel la provision. Mes amis, chaque fois que vous aurez besoin d'une provision, amen, vous serez en manque de provision, amen, et que vous croyez que la provision devrait être là, amen, ayez confiance en Dieu. Amen. Levez les yeux vers Dieu et activez votre foi. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la foi de Dieu pour activer le surnaturel. Pourquoi? Parce que, regardez, pendant qu'Israël est en train de marcher avec Moïse, ils ont commencé à murmurer. Et chaque fois qu'ils murmuraient, Dieu se fâchait. Pourquoi? Et il pose la question. Vous n'avez pas vu que j'ai ouvert la mer? Vous n'avez pas vu que j'ai fait ceci? Autrement dit, Dieu leur disait d'avoir cette confiance en lui parce qu'il est capable de faire quelque chose de surnaturel. Dieu est en train de dire que tu n'as pas besoin d'aller chasser des oiseaux avant d'avoir des oiseaux en multitude. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler, mais dans les moments de confusion, dans les moments de difficulté ultra difficile ou ultime ou quoi. Amen. Où tes forces, tes capacités seront limitées, appelle la foi de Dieu. Amen. Nous voyons aussi dans le livre. Le temps compte moins. Vous voyez en Néhémie. En Néhémie, le chapitre 17, verset 2 au verset 6. La Bible dit, Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Il dit, là, je vais te nourrir. Amen. Et il se lève et il part. Et il va se mettre là-bas. Et il a fait comme Dieu. Il s'est mis face au Jourdain. Dieu lui a dit, tu te mets face au Jourdain. Si vous lisez, vous allez voir. C'est telle instruction. Ça veut dire qu'il s'attendait au surnaturel de Dieu. Il a obéi. Il dit, il fit partie et une partie et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et la Bible dit, matin et soir, des corbeaux venaient nourrir Élie. Mes amis, un corbeau, habituellement, est un animal ou un oiseau, dites, un oiseau de malheur, de mauvais augure. Mais Dieu utilise justement ces oiseaux pour nourrir son nom, pour dire qu'il maîtrise la création. Il maîtrise la création. Vous voyez? Pour nous dire aussi, pour montrer combien de fois lui, Dieu, quand les temps arrivent, il utilise même les ennemis pour nous rendre riches. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon et les Égyptiens. Quand il a éveillé l'esprit de Cyrus, la Bible nous dit que Cyrus a rendu aussi les biens qui avaient été volés dans le temps. Mais en même temps, les gens sont venus donner des biens en abondance au peuple aussi, comme au temps où ils sortaient de l'Égypte. Mes amis, lorsque vous êtes cruellement en détresse par rapport aux ressources, vous devez appeler la foi de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir 3 personnes qui croient en cette parole? La deuxième chose, c'est que le don de foi active sur nous la réalité de plus grandes choses. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit quoi? Parce que. Il va au Père pourquoi? Nous sommes en Jean 14, là où il annonce pour la première fois le Saint-Esprit. Ensuite, Jean 15, il annonce encore le Saint-Esprit. Jean 16, il annonce encore le Saint-Esprit. Il va au Père, il dit, vous allez faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Il va au Père pourquoi? Pour nous envoyer l'Esprit de Dieu. Il dit, si vous croyez, vous ferez de grandes choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait taire, a séché un arbre par sa sainte parole. Jésus a fait cesser des tourbillons dans la mer. Jésus a fait taire la mort. Amen, amen. Le don de foi déclenche en vous des prodiges. Le don de foi déclenche en vous les miracles. 3. Le don de foi active sur nous la capacité de transmettre même le Saint-Esprit. Vous savez, les chrétiens reçoivent l'Esprit. Nous tous, nous pouvons recevoir l'Esprit. Mais la capacité de transmettre le Saint-Esprit, il faut le don de foi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Galates 3, verset 5. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 14 au verset 17. Et Actes 19, verset 6. Gloire à Dieu. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Mais avant, du verset 1 jusqu'au verset 5, là, vous allez voir qu'il parlait d'Apollos qui était déjà là-bas. Alléluia. Et il dit qu'ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes avec Pierre, lorsque Pierre allait en Samarie, Philippe était parti en Samarie, il avait proclamé la parole de Dieu. Mais personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Quand Pierre est arrivé avec Jean, en imposant la main, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est là que Simon le magicien a voulu acheter le Saint-Esprit. Amen, amen. 4. Le don de foi active sur nous la capacité de parler comme Dieu. Yes. Marc 5, verset 35. C'est Marc 4. Marc 4, c'est une erreur pour moi. C'est une erreur pour moi, la com. Donc, cherchez Marc 4 surtout. 4, 4. Merci beaucoup. Marc 4, verset 35 au verset 41. Ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Vous voyez pourquoi est-ce que Pierre dormait dans la prison? Amen. Vous voyez non? Pourquoi Pierre dormait dans la prison? Parce qu'il a vu le maître le faire. Il était au milieu de deux gardes. Derrière, il y avait des squads. Il y avait beaucoup. Quand on calcule, ça fait 16 soldats. 16 ou 12 soldats, je ne sais plus. Mais écoutez, lui, il dormait. Au point où quand l'ange arrive, il le frappe dans le côté. Lève-toi! On s'en va. Mais vous voyez, quand vous lisez la suite du verset, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait une débandade, il y avait une grande agitation au niveau des soldats. Et Hérode disait, mais où il est? Où ils sont? Lui qui dort là n'est pas agité. Lui qui est en prison, qui sait qu'on a tué, on a décapité Jacques, il dort. Il dort. Que la foi te fasse dormir. Que la foi de Dieu te fasse dormir. Que la foi de Dieu te fasse dormir devant ceux qui te cherchent des ennuis. Alléluia. Que la foi de Dieu te fasse dormir devant les situations difficiles. On dit c'est compliqué à l'entreprise. Vous êtes 60. On dit on doit chasser 50 personnes. Toi, tu dors. Toi, tu dors. Il y a quelqu'un qui dort par la foi. Dors par la foi. Dors par la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sais de quoi il te parle. Pendant 2 ans, ils ont essayé de me chasser. Ils n'ont pas pu. Pendant 2 ans. Les hommes sont méchants. Alléluia. Ils vont essayer. La grâce qui est transportée pendant ces 2 ans-là, ça vient sur toi ce matin. Amen. Quand ils vont essayer, quand ils vont essayer, ils ne vont pas réussir. Amen. Je ne sais pas comment Dieu a fait, hein, mais ils ne vont pas réussir. Amen. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu décides de par toi-même de quitter la boîte, personne ne pourra mettre fin à un contrat où tu as évoqué Dieu avant de signer. Au nom de Jésus. La Bible dit, vous voyez, au verset 38, il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas. Vous voyez, la foi de Dieu ferme les yeux sur tout paramètre qui peut venir heurter le cœur secouer le cœur et créer en nous l'incrédulité, créer en nous la peur. La foi de Dieu ne regarde pas à la hauteur d'une montagne. David voit Goliath et dit, qui est cet incirconcis? Pendant que les autres étaient en train de prendre des jumelles spirituelles pour mesurer la taille, la corpulence, le poids même. Ils étaient ici et puis ils avaient le poids. Ils connaissaient le poids du bouclier de Goliath. Waouh, quel don spirituel! Mais pendant qu'ils étaient en train de faire cette étude de peur, lui, David, dit, mais c'est qui ce incirconcis? David va voir Goliath et va le comparer à des animaux qu'il a déjà tués. C'est vrai qu'il rugit. C'est pas que David a nié la grandeur de Goliath. Parce qu'à la fin, vous allez voir que David va dire, mon Dieu va me délivrer de ce Philistin. Ça veut dire quoi? Il ne comptait pas sur lui. Ça veut dire qu'il voyait la grandeur du Philistin. Mais la foi ferme les yeux sur ce qui est capable de t'effrayer. Mes amis, la foi de Dieu ne regarde pas les paramètres. La foi de Dieu ne regarde pas du tout l'apparence. La foi de Dieu ne regarde pas la réalité. La foi de Dieu se base non seulement sur la parole, mais parle comme Dieu aux situations, aux événements, parle comme Dieu aux montagnes, parle comme Dieu à la maladie, parle comme Dieu aux morts. C'est la foi de Dieu qui est capable de voir un corps inanimé et de rappeler l'esprit. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, est capable de transmettre quoi? Le Saint-Esprit. Donc la foi de Dieu est capable de rappeler l'esprit à venir rentrer dans le corps pour que la personne se relève. C'est la foi de Dieu. Aucun homme ne peut réaliser de tels exploits. Aucun. Aucun. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Et je prie que cette foi te soit accordée ce jour. Tu parleras comme Dieu. Oui, tu parleras comme si Dieu lui-même parlait. Tu guériras comme si Jésus guérissait. Tu feras des miracles comme si Jésus faisait lui-même les miracles. Tu commanderas aux maladies comme si Jésus-même commandait. Tu ramèneras l'esprit des morts dans leur corps comme si Jésus le ferait. Vous voyez, c'est la foi de Dieu qui te donne cette assurance. Cette assurance que Dieu peut. C'est la foi de Dieu qui te donne cette certitude. Parce que Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Vous voyez, en passant, les trois types de grands dons là. Le don de révélation. Les dons de révélation évoquent l'omniprésence de Dieu. Amen. Non, l'omniscience de Dieu. L'omniscience. Dieu connaît tout. Il sait tout. Il a la sagesse infinie. Les dons d'inspiration, l'omniprésence, parce que c'est le don pour parler. Tu parles comme si Dieu est en train de te parler. Et l'omnipotence, c'est la puissance de Dieu. Tu vois, les dons de puissance sont ces dons-là qui... En fait, Dieu s'incarne en toi pour réaliser des choses inhumaines qu'aucun homme ne peut faire. Qu'aucun homme ne peut faire. Quand on dira c'est impossible... Toi, tu as déjà vu tous les plans. Toi, on dit ici, c'est une forêt, c'est une rivière. Mais tu vois déjà une usine. Tu vois déjà un grand temple. Tu vois déjà la réalisation d'une multinationale. Quand on dit ici, personne ne réussit dans telle activité. Toi, tu es déjà à un autre niveau supérieur. Vous voyez ? Là où les hommes voyaient le désert, ceux qui avaient la foi voyaient déjà Dubaï. Oui. La foi. Ah, je n'ai pas le temps est fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous lis rapidement les autres points et puis on part. J'ai fini, mon temps vient de finir là. Amen. Donc par la foi, par cette foi, Dieu va te donner la certitude de parler sur les morts, sur la vie, sur la santé, sur le corps, sur l'atmosphère et sur le climat. Reçois cette grâce au nom de Jésus. En 5, le don de foi permet de tenir ferme face aux grands défis nommés insurmontables. 6, le don de foi aide à générer des miracles. Donc tous les miracles qui ont été générés ont été faits sous base du don de foi. Amen. Et en 7, le don de foi apporte à l'Église une confiance et une sérénité quand vient la persécution. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout pour faire une minute de prière, pour demander le don de foi. Tu vas te lever et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle au Seigneur Jésus. Tu m'as promis l'Esprit. L'Esprit est venu. Seigneur, et tu dis au Seigneur, accorde-moi par l'Esprit de transporter le don de foi. Ce don qui est donné par le Seigneur Saint-Esprit. Accorde-moi le don de foi. Qu'aucune situation ne m'effraie. Que je ne perde ma sérénité sous aucune forme devant une situation donnée. Que ma vie transporte l'autorité, la puissance, le charisme de Dieu. Que je parle aux situations comme si Dieu était là. Que je déplace les maladies comme si c'était Jésus qui les déplaçait. Élève la voix et prie. Que ta bâche est célébrée. Seigneur, nous te prions ce matin. Car nous croyons en cette parole. Nous croyons que tu es capable de mettre en nous une foi capable de déplacer les montagnes. Nous soupirons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la manifestation du don de foi. Je crois au nom de Jésus-Christ que ce don m'a été donné. Et ce don, Seigneur notre Dieu, est manifesté, cultivé, exercé chaque jour. Je deviens de plus en plus à l'image de Christ pour déplacer, Seigneur, les montagnes. Face aux situations, Seigneur notre Dieu, que l'homme n'a pas, Seigneur, le pouvoir là-dessus. Tu me donnes le pouvoir de les changer, le pouvoir de les contourner, le pouvoir de les déplacer, le pouvoir de les faire taire. Ce don me donne la capacité de faire taire les démons, les mauvais esprits et leurs mauvais déchets. J'ai le pouvoir, la puissance de Dieu qui déploie, oh, le don de foi. Mandopaka Satare Kosibayalane. Juste les mains vers le ciel. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, car l'Esprit de Dieu va te faire un cadeau. Seigneur Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que le don de foi soit accordé à tes serviteurs qui ont cette faim de voir la réalité spirituelle se manifester. L'Église aujourd'hui a besoin de ce don de puissance. Père, au nom de Jésus, dote-nous, équipe-nous de ce don de puissance. Et que par ce don de puissance, Seigneur notre Dieu, les hommes voient ta gloire et rendent honneur à Christ notre Sauveur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et nous disons trois fois Amen. Amen.